Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure de retrouver Victor Porcher pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. Des tickets resto pour payer vos courses, pour l'instant, c'est encore possible. Mais la mesure va-t-elle être reconduite ou pérennisée? C'est ce que souhaite la ministre Olivia Grégoire. Pas forcément les restaurateurs, vous l'entendrez. Dans l'actualité également, quatre membres d'une même famille derrière les barreaux depuis hier soir. Ils sont soupçonnés de l'assassinat du jeune Zakaria à Romans-sur-Isère. Et puis du football, si Rennes veut croire à l'Europe, il va falloir accélérer en cette fin de saison et ça commence dès ce soir contre Toulouse.
Et puis à 7h10, les motards en colère réitèrent leur opposition au contrôle technique des deux roues qui doit débuter ce lundi. Manifestation dans tout le pays aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils doivent être logés à la même enseigne que les automobilistes? On vous attend au 32-16.
Payer vos courses en tickets restaurant, jusque-là c'était une mesure temporaire, mais elle pourrait bien s'installer définitivement.
C'est en tout cas la volonté exprimée hier sur RMC d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. S'il n'est pas pérennisé dans la réforme des tickets resto qui arrive à la fin du mois, ce dispositif anti-inflation disparaîtra l'année prochaine. Et Solène Gardret, à Paris, il énerve les restaurateurs autant qu'il soulage les bénéficiaires.
Oui, à l'image de Georges, ce père de famille espère vraiment que la mesure sera maintenue.
Les prix de l'alimentaire augmentent beaucoup. Les prix des restaurants, même des restaurants petit budget, comme on dit, ça a beaucoup augmenté. Les tickets resto, ça permettait de s'y retrouver un petit peu.
Pareil pour Jérôme, il travaille dans un quartier cher et préfère largement préparer son repas chez lui plutôt que dépenser au restaurant.
Quand on prenait au resto, c'était sur les Champs-Élysées. Donc effectivement, les prix autour, à moins d'aller chercher vraiment loin, n'étaient pas du tout les mêmes que ce qu'on pouvait avoir en préparant quelque chose chez soi et en le ramenant au travail ensuite.
Comme lui, 96% des salariés souhaitent la pérennisation de cette mesure, d'après un sondage de la Commission nationale des titres restaurants. Mais de nombreux restaurateurs sont opposés à cette idée.
C'est une des choses qui fait que les restaurants, dernièrement, travaillent moins.
Déplore Anis, gérant d'une boulangerie.
Moi, j'ai beaucoup de bureaux juste à côté. Avant, je travaillais très bien avec eux. Là, je travaille moins parce qu'ils préfèrent aller dans les grandes surfaces.
En 2023, le manque à gagner pour les restaurateurs était de 200 millions d'euros, selon l'UMI, l'Union de l'hôtellerie-restauration.
Le reportage de Solène Gardret pour RMC.
RMC 7h02, le gouvernement veut traquer les agresseurs sexuels dans l'armée.
Et il a lancé une mission d'inspection déclenchée notamment par les témoignages qui sont sortis ces dernières semaines. Il s'agit surtout d'améliorer la prévention, la protection des victimes et les sanctions des coupables, comme l'explique la députée Renaissance Laetitia Saint-Paul. Elle est aussi officier dans l'armée et elle dénonce des violences systémiques.
Malheureusement, ce ne sont pas des cas isolés, c'est vraiment un mode d'action, un cadre qui s'en prend à une jeune victime, qui lui explique que sa parole de toute façon ne sera jamais crédible puisque lui est en position de force. Et les agresseurs restent au sein de l'institution. Il y a le jeu des mutations qui fait qu'il n'y a pas de mémoire. Et malheureusement, c'est des agresseurs qui multiplient le nombre de victimes parce qu'ils ne sont pas virés, tout simplement. Donc, ce n'est pas une tempête à traverser, mais bien un chantier à construire.
Et cette mission d'inspection durera jusqu'à la fin du mois de mai, annoncé hier le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui souhaite aussi redurcir la journée défense et citoyenneté. Vous savez, c'est l'ancienne JAPD pour les jeunes. Elle est trop démilitarisée, selon lui, alors qu'elle doit permettre, dit-il, de mieux comprendre le fonctionnement de l'armée.
Les quatre suspects de l'assassinat de Zakaria à Romans-sur-Isère sont en prison.
Une famille placée en détention provisoire après le coup de couteau mortel dont a été victime l'ado de 15 ans dans le quartier de la Monnaie en début de semaine. Un père, son gendre et les deux fils mis en examen. Parmi les deux jeunes, l'auteur du coup pour meurtre avec préméditation, mais Johanna Chabas, tous sont en fait poursuivis à des degrés différents.
Oui, car si le grand frère a avoué être à l'origine du coup de couteau mortel, les trois autres membres de la famille sont accusés d'être complices de cette expédition punitive. Une expédition organisée par le père de famille. C'est lui qui a incité son fils de 16 ans à se venger d'un adolescent du quartier de la Monnaie qu'il avait frappé quelques jours plus tôt. Un règlement de compte qui a dégénéré. Zakaria, un adolescent jusque-là spectateur, a tenté de s'interposer avant de se faire mortellement poignarder. La lame du couteau a transpercé ses deux poumons et son cœur, révèle l'autopsie. Les quatre suspects, eux, s'étaient ensuite enfui, laissant la victime sur le sol. Hier soir, ils ont donc tous été placés en détention provisoire, y compris le fils de 16 ans. Ce dernier pourrait être bientôt transféré dans un centre éducatif pour mineurs sous contrôle judiciaire.
Les explications de Johanna Chabas pour RMC. L'identité de l'assaillant de Bordeaux a bien été confirmée. C'est un demandeur d'asile afghan de 25 ans. Il avait le statut de réfugié. Rien de suspect n'a été trouvé dans son appartement perquisitionné. Son téléphone est en cours d'analyse. Le parquet national antiterroriste est toujours attentif sur cette affaire. L'homme abattu par les polices avait tué un passant parce qu'il ne supportait pas de le voir boire de l'alcool le jour de l'Aïd. Et puis à l'étranger, les sirènes anti-bombardement ont retenti ces dernières heures en Israël, aux frontières de Gaza. Le djihad islamique revendique des tirs de roquettes, tout comme le Hezbollah libanais au nord. Aucun blessé, dit Tel Aviv, qui s'inquiète surtout des menaces de l'Iran. Joe Biden prédit une attaque pour bientôt. C'est le mot employé par le président américain. Washington a envoyé des renforts en Israël.
7h05 en football et en Ligue 1, le RC Lens renversé par Metz.
Et par son attaquant Miko Tadze, auteur d'un doublé, score final 2-1. Les Lensois sont 6e au classement. Une aubaine pour le Stade Rennais, 9e, qui affronte Toulouse ce soir et qui peut se rapprocher du concurrent Lensois dans la course à l'Europe. Pour ça, Xavier Grimaud, il va quand même falloir bien accélérer dans le sprint final pour sauver cette saison.
Oui, le Stade Rennais le sait, il sera plombé jusqu'au bout par son début de saison totalement manqué. Mais les Bretons peuvent encore se qualifier en Coupe d'Europe pour la 7e année de suite. À 6 matchs de la fin, l'entraîneur rennais Julien Stéphan tient à rappeler que le club revient de loin.
À partir de fin novembre ou début décembre, il y avait un message qui a été passé en disant qu'il n'y avait pas de honte à revoir ses objectifs initiaux. Et ce qui a ressuscité de l'attente, c'est la série janvier, février, mars. Tant mieux. Donc je dirais pas dos au mur, je dirais conscient encore de ce qu'il y a à jouer. Il y a 5 clubs là qui vont se battre entre la 5e et la 10e place. Et on en fait partie.
Problème, Rennes reste sur 2 défaites en Ligue 1. La réception de Toulouse est donc primordiale et le milieu de terrain, Benjamin Bourigeaud, veut lutter contre un certain pessimisme ambiant.
On entend beaucoup de choses de part et d'autre en disant qu'on est quasiment mort. Donc voilà, le principal déjà, c'est que nous croyons en nous, que les gens qui nous supportent croient en nous et on se donnera en tout cas les moyens de faire le maximum et avec une grande détermination surtout.
Et en se souvenant de la fin de saison dernière, Rennes avait remporté 5 de ses 6 derniers matchs.
Rennes-Toulouse, coup d'envoi 21h, autre rencontre de Ligue 1 à 17h, ce sera Strasbourg-Reims. Un mot de basket pour vous dire que le Paris Basketball a remporté l'Eurocoupe, c'est la petite coupe d'Europe, vainqueur à Bourg-en-Bresse du match 2 des finales 89-80. Et puis c'est jour de coupe d'Europe aussi en rugby. La Rochelle s'attaque ce soir à son meilleur ennemi, la province irlandaise du Leinster. L'enjeu, tout simplement, un billet pour les demi-finales de la Coupe des Champions. Alors avant le choc, le troisième ligne Rochelet, Grégory Aldrit, évoquait la rivalité entre les deux équipes.
C'est sûr qu'il n'y a pas la place pour les deux équipes. Il y aura une équipe qui ira en demi-finale et une autre équipe qui rentrera chez elle tête baissée, quoi. Donc, je veux dire, dans le sport, quand on a un adversaire, il y a forcément une rivalité. On s'est croisés plusieurs fois. Ça vient du fait que c'est en phase finale et qu'en phase finale, c'est comme ça, quoi.
Le troisième ligne Rochelet, Grégory Aldrit. Et puis, je ne sais pas si vous étiez fort en dictée ou pas. En tout cas, des centaines de personnes étaient rassemblées hier au pied de la Tour Eiffel pour une grande dictée sur le thème des Jeux Olympiques.
J'allais dire l'angoisse, mais non.
Ça avait l'air très sympa.
J'adore les dictées de Victor
Boucher. En tout cas, vous pourrez même vous essayer de vous y frotter. La retransmission de la grande dictée des Jeux, ce sera mercredi à 21h sur France 5.
C'est noté et tout de suite là sur RMC. Prenez vos stylos. Emmanuel Macron, je répète, Emmanuel Macron invité d'RMC lundi matin à partir de 8h20, invité d'Apolline de Malherbe pour parler des Jeux Olympiques de Paris, justement, tiens, quasiment 100 jours des Jeux, de l'organisation, de la sécurité, de toutes les questions que vous vous posez. D'ailleurs, si vous avez une question pour le président, vous l'envoyez directement à l'adresse suivante, vosquestions@rmc.fr. Et puis ce matin, je vous rappelle aussi qu'on vous offre des places pour les Jeux Olympiques. 100 places à remporter dans les shows d'RMC, pour la cérémonie d'ouverture, pour le judo, pour l'athlète, pour le tennis de table. Et j'en passe. Envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. On aura le premier gagnant du jour, celui qui a gagné 2 places, avec nous à 9h08 ce matin sur RMC. Il est 7h08.
À suivre dans la matinale week-end.
Vous restez bien avec nous sur RMC à 7h40. On va parler des tickets restaurants parce que la ministre Olivia Grégoire est pour pérenniser leur utilisation au supermarché. Ça ne réjouit pas du tout les professionnels de la restauration. On sera avec Romain Vidal, représentant du groupement des hôtelleries et restaurations de France.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. On parle de quoi ce matin ?
Attention, attention aux bornes de recharge publiques. C'est pratique dans les aéroports et dans les gares. Mais je vais vous dire qu'il vaut mieux ne pas s'y brancher.
D'abord, notre débat du jour sur les deux roues motorisées soumises au contrôle technique à partir de lundi. Mesure que les motards ont bien du mal à accepter. Les manifestations auront lieu dans tout le pays aujourd'hui. Est-ce que vous les comprenez, les motards ? Est-ce normal qu'ils soient logés à la même enseigne que les automobilistes ? Je vous attends au 32-16. À vous de nous dire dans deux minutes.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Et bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h30.
RMC,
à vous de nous dire.
À vous de nous dire avec Kevin Gasser. Bonjour Kevin.
Bonjour Marie, bonjour Anaïs.
Nous vous consultons Kevin et nous décryptons ensemble une question d'actualité sur notre compte Twitter. Nous vous interrogeons ce matin. À partir de lundi, le contrôle technique devient obligatoire pour les deux roues. Est-il normal que les motards y soient soumis comme les automobilistes ?
Oui, c'est la question que nous vous posons ce matin parce que le contrôle technique sera donc désormais également obligatoire pour les cyclomoteurs, les motos, les scooters et aussi pour les 3 et 4 roues motorisées comme les quads par exemple. Alors ça va se faire par étapes. Si vous possédez une moto mise en circulation avant le 1er janvier 2017 d'abord, le contrôle technique est à réaliser avant le 14 août si la date d'anniversaire de sa mise en circulation de votre moto est avant le 15 avril et d'ici la fin de l'année si c'est après. Alors ça concerne quand même près de 2 500 000 personnes. Après, si votre engin a été immatriculé entre 2017 et la fin 2019, ce sera en 2025 et ainsi de suite. Ce contrôle technique sera valable 3 ans et devrait coûter de 50 à 90 euros.
Mais ce dossier, Kevin, ça fait longtemps qu'il est sur la table du gouvernement, non ?
Oui, en fait, depuis le début des années 2000, les acteurs de la sécurité routière y pensent. C'est la Commission européenne en 2014 qui avait imposé aux États membres de le mettre en place avant 2022. La France a tardé à l'appliquer, contrairement à ses voisins européens. Et c'est finalement l'année dernière que le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de publier le décret d'application en octobre dernier.
Un décret qui ne plaît pas du tout aux motards, ils se mobilisent aujourd'hui partout en France.
Oui, à l'appel de la Fédération française des motards en colère. Ça fait plus de 10 ans que l'association est vent debout contre le contrôle technique des deux roues, qu'elle considère inutile, un racket même, selon leurs mots. Ils demandent à tous les motards même de boycotter le contrôle, au risque de prendre une amende de 135 euros. Les motards en colère brandissent en fait un argument, le mauvais état des motos, qui n'est que dans de rares cas la cause des accidents.
Et que disent les chiffres à ce sujet justement ?
Alors il y en a un qui est souvent utilisé par l'association, c'est une étude de 2009 menée à l'échelle européenne par un organisme créé par la Commission. Et là effectivement, moins d'1% des accidents des deux roues seraient uniquement liés à un défaut technique. Mais l'association Ras le Scoot note que ce serait en fait, selon l'étude, jusqu'à 5% des accidents qui pourraient être liés à l'état de l'engin, sans que ce soit forcément la cause principale. Sauf que cette étude, 2008, ça commence à dater et ne concerne surtout pas que la France, mais rouler à moto reste plus dangereux qu'en voiture, ça c'est sûr. Les usagers de deux roues représentent 20% des tués sur la route selon les chiffres du gouvernement, alors qu'ils ne représentent que 2% des usagers. Ce contrôle technique reste donc une mesure de sécurité routière, une mesure utile pour l'ancien ministre des Transports Clément Beaune. Et autre argument des associations qui défendent ce contrôle technique, c'est un moyen de lutter contre la pollution sonore et environnementale, en pointant notamment les engins aux moteurs débridés.
Alors à vous de nous dire, est-il normal que les motards y soient soumis comme les automobilistes ?
Bien, vous avez répondu oui à 65% à notre consultation sur Twitter.
Et ça fait déjà réagir aussi sur l'appli RMC. On a Freddy qui nous envoie un message. Il dit qu'il est président de Motoclub. Et il dit au nom de tous mes confrères, je tiens à dire que nous n'avons pas à payer les pots cassés ni les plâtres des manques à gagner gouvernementaux. Ce contrôle technique moto est une véritable mascarade. Il en a été démontré à plusieurs reprises dans de très nombreuses vidéos, mais également de très nombreux écrits noirs sur blanc effectués par des professionnels du secteur du contrôle technique.
Vous continuez à réagir sur l'appli RMC et au 32-16 évidemment. On a Romain qui nous appelle au 32-16. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Ingénieur en mécanique, je crois, c'est ça ?
C'est bien ça, c'est bien ça.
Et motard ?
Oui, motard depuis que j'ai 19 ans, donc j'ai fait de nombreux kilomètres à moto.
Donc, alors, vous avez une moto, Romain, elle sera concernée dès cette année ou non ?
Ah oui, elle est de 2002, donc oui, elle est concernée, on est en plein dedans.
Alors, est-ce que vous allez le faire le contrôle ou est-ce que vous allez boycotter ?
Alors pour le moment, je vais boycotter parce que ben, y a pas d'arguments pour moi qui sont valables. À l'heure actuelle, les motards, on est, quand on monte sur une moto, on sait qu'on est vulnérable. Donc moi, avant chaque départ en moto, ben, je fais la pression de mes pneus, je regarde que je parte en totale sécurité, je mets mon équipement et payer entre 60 et 100 euros pour aller faire un contrôle visuel chez une personne qui n'est pas forcément formée à manipuler une moto qui peut à tout moment la faire tomber. Moi, je trouve ça aberrant. Et après, le seul point où ma moto risque d'être un peu embêtée, c'est au niveau de la pollution. Mais voilà, après, sur tout le reste, je trouve pas ça normal. Les motards, enfin, la majorité des motards, et je parle aussi pour ceux qui sont dans mon entourage, on a la même philosophie, c'est qu'on est des personnes responsables et quand on part en moto, on sait ce qu'on a à faire et on contrôle ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas sûr qu'une personne dans un contrôle technique puisse faire les mêmes contrôles que moi je vais faire.
Romain, vous restez avec nous parce qu'on a Julien aussi qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Julien.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Romain ou est-ce que vous pensez que c'est normal que les motards soient logés à la même enseigne que les automobilistes?
Bon, Julien, c'est malheureux, mais enfin, dommage pour lui, mais je ne suis pas d'accord avec Romain. Non, oui, il faut qu'il soit, mais pourquoi nous, automobilistes, on serait obligés de passer un contrôle régulier, technique régulier et pas les motards? Car à partir du moment où on emprunte les mêmes taxes routiers, on doit être soumis tous aux mêmes règles.
Vous entendez Romain qui dit « Mais moi je la vérifie, ma moto, il n'y a pas de danger. »
Ouais, mais ils se rendent compte tout ça, mais est-ce qu'ils le font tous? Moi, je vérifie ma voiture aussi, on m'impose quand même un contrôle technique. Hein.
Mm-hmm. Après, Romain, oui, je vous laisse répondre à Julien.
Après, moi, le truc qui me gêne le plus, c'est que là, on parle du contrôle technique pour les deux roues. Mais les deux roues, ça veut tout dire et rien dire. Ça part du cyclomoteur jusqu'au gros cube, les tricycles qui sont en train de grandir la population aussi, et les voitures sans permis. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas adapter un contrôle technique, que ce soit aussi bien sur des cyclomoteurs qui ont une certaine, une certaine population qui l'utilise. Nous, les motards, on fait de la moto par plaisir, par passion et pour nous déplacer aussi. Voilà. Après, si c'est juste pour faire un contrôle visuel, honnêtement, je vois pas ce que ça va apporter de plus.
Mais vous comprenez que ça puisse choquer les automobilistes qui disent, et pourquoi les règles seraient différentes?
Après, oui, je comprends. Après, pour la pollution sonore, ça, on est tout à fait d'accord. C'est malheureux. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles, mais comme non, de partout, comme en voiture.
Sonore, ça y est.
Julien.
Oui, je disais, c'était quoi la pollution sonore, ça y est. Il n'y a qu'à se balader sur les sites de petites annonces. Quand on voit le nombre de roues en deux roues, soit scooters ou motos qui sont vendues, il faut arrêter de faire croire que tout le monde
après,
que ça décale. Je ne crois pas beaucoup à ça.
Après, moi, j'encourage les... même que ce soit les à la maréchaussée ou autre, à contrôler les deux roues, qu'on soit contrôlé, il n'y a pas de problème. Mais aller sur la Côte d'Azur ou autre, moi, ce qui m'embête, c'est de voir des pseudo-motards rouler en short et en t-shirt. Et ça aussi, on n'en parle pas.
C'est autre chose. Romain, donc vous dites, moi, il n'y aura pas de contrôle technique pour ma moto. On est d'accord?
Non, pas.
Vous savez que vous risquez une amende de 135 euros, c'est pas grave?
Ben, actuellement, vous prenez le risque? Je prends le risque et puis actuellement, moi, je me suis renseigné dans la ville où j'habite. Ben, il y a 3 centres de contrôle technique. Il n'y en a aucun qui fait la moto. Mm-hmm. Donc là, je suis un peu embêté. Et je suis allé voir mon assureur pour essayer d'avoir un peu des informations là-dessus. Il n'a aucune information à me divulguer. Il n'a aucune information à me donner. Donc là, moi, je suis un peu sans... Je vais aller me présenter à un centre. Il va me dire, ah ben non, je ne peux pas faire... est-ce que la personne est formée? Je ne le saurais pas. Enfin, on est dans un no man's land, là, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu tiré par les cheveux, là, ce contrôle technique des motos.
Vous attendez de voir. Merci à tous les deux d'avoir appelé ce matin au 32-16, d'avoir témoigné. Je vous donne rendez-vous à 8h10 pour poursuivre le débat.
Juste avant de partir, oui. Comme c'est l'anniversaire de mon père, je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire, comme je sais qu'il écoute. Voilà.
Eh ben, bon anniversaire, comment il s'appelle?
Bon anniversaire.
Pascal.
Eh ben, bon anniversaire. Pascal, quel âge?
On l'affiche.
Combien?
65 ans.
65 ans. Bel anniversaire comme ma fille, un 13 avril. Quelle belle journée. Bon anniversaire à vous, mon cher Pascal. Et passez une excellente journée à l'écoute d'RMC. Vous continuez à réagir sur ce débat autour du contrôle technique des deux roues motorisées. Normal ou pas qu'ils soient soumis au même régime que les automobilistes? Vous nous dites au 32-16, un rendez-vous. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère de Paris et de sa petite couronne, sera avec nous tout à l'heure à 8h10. Vous restez avec nous dans un instant, Anthony Morel qui vient alerter les utilisateurs de bornes de recharge pour smartphone. Attention, attention, vos données pourraient être volées, va nous dire Anthony. A tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end sur RMC qui se poursuit, il est 7h22.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, tous les jours sur RMC avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour Marie.
En ce jour de départ en vacances, pour certains, vous nous mettez en garde. Attention aux bornes de recharge pour smartphones dans les gares et dans les aéroports. Elles peuvent potentiellement infecter nos smartphones et voler nos données personnelles.
Oui, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le FBI qui a récemment lancé une alerte face à ce qu'on appelle le juice jacking, c'est le fait de détourner les bornes de recharge qui sont très pratiques, c'est vrai, quand on est en rade de batterie à la gare ou quand on veut prendre son avion. Je ne parle pas de la prise électrique, mais bien du port USB. Vous savez, là où vous insérez votre câble de chargeur, il peut avoir été manipulé par un hacker. Et donc, en même temps qu'il va recharger votre téléphone, bah, en fait, il va installer, sans que vous le sachiez, un logiciel malveillant qui va siphonner vos données. Vous croyez charger votre smartphone, en fait, vous êtes en train de vous faire pirater, tout simplement. Alors, le principe n'est pas nouveau, mais le matériel nécessaire pour réaliser ce genre de cyberattaque n'a jamais été aussi peu cher et simple à se procurer, sans compter qu'on trouve de plus en plus de bornes de recharge dans les lieux publics. Alors les fabricants de téléphones ont amélioré la sécurité au fil des années, mais malheureusement ça ne suffit pas. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est d'utiliser son propre chargeur ou une batterie externe, sa propre prise électrique. Alors partir du principe que les bornes de recharge publiques, c'est un peu l'équivalent, et c'est ce que disent les experts en sécurité, hein, d'un rapport sexuel non protégé, c'est-à-dire c'est pas sûr que vous attrapiez quelque chose, mais enfin dans le doute, c'est quand même mieux d'éviter. Voilà. Et d'ailleurs l'un des moyens de protection, eh bien, c'est pas une blague, hein, le préservatif USB, USB Condom, c'est un port USB qui va se brancher entre votre smartphone et le port USB public, et lui il est complètement étanche, il va bloquer tout transfert de données, donc ça va ajouter une petite couche de sécurité.
Alors il y a les bornes de recharge publiques, mais il y a aussi les réseaux Wi-Fi publics, et là aussi il faut se méfier.
Bien sûr, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les gares, et c'est vrai que c'est tentant quand on est en voyage pour économiser sa connexion 4G, 4 ou 5G, encore plus quand on est à l'étranger, hors Union Européenne. Alors en général, les réseaux sont mal sécurisés, sans authentification, et donc des pirates peuvent récupérer toutes les informations qui passent grâce à des logiciels spécialisés, sans compter que sur le nombre de hotspots qu'on vous propose, certains peuvent être des pièges, des faux réseaux Wi-Fi gratuits créés par des pirates qui vont copier le nom de celui d'un hôtel, par exemple, et qui va récupérer toutes vos données. Donc vaut mieux désactiver la connexion automatique du Wi-Fi, si possible utiliser un VPN qui va chiffrer toutes les données et éviter les manipulations sensibles du genre transfert bancaire ou entrer ses mots de passe quand on se connecte à un réseau Wi-Fi public.
Évidemment. Et puis vous vouliez aussi nous parler d'un petit objet connecté qui permet à n'importe qui de déverrouiller un parking ou la porte d'une chambre d'hôtel.
Ouais, ça s'appelle le Flipper Zero. Il connaît un énorme succès sur TikTok, ce petit appareil qu'on présente souvent comme le Tamagotchi des hackers. C'est un petit jouet en plastique, ça ressemble à un jouet pour enfants avec un petit écran en noir et blanc, et ça a la particularité... Oui, Flipper, parce que ça fait flipper, ouais. C'est un peu ça. Parce qu'il a la particularité de pouvoir lire et copier à distance des tags NFC et RFID. En gros, c'est les technologies sans contact qu'on utilise dans plein d'objets du quotidien. Et donc, à très faible distance, eh bien, on peut copier à distance, en s'approchant de vous, un pass de parking, un badge de chambre d'hôtel, mais aussi, par exemple, changer la chaîne de télé dans un bar. Tous les objets mal protégés, en fait, peuvent être piratés. Alors, ils sont théoriquement interdits de vente sur les gros sites du genre Amazon, mais bon, on peut quand même se les procurer relativement facilement. Donc voilà, pardon de vous avoir fait un petit peu peur aujourd'hui, et c'était plutôt pour vous mettre en garde
bien
face à toutes ces menaces.
C'est toujours bien de savoir ce à quoi il faut faire attention. Merci Anthony Morel.
Merci Anthony, c'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
Allez, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la météo et le point sur l'info.
RMC, la matinale week-end.
L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clara Gabillet, bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour Marie, bonjour à tous. La crainte d'une attaque de l'Iran contre Israël, les États-Unis redoutent une riposte imminente et envoient des renforts dans la région. Le thermomètre va grimper aujourd'hui jusqu'à 30 degrés attendus dans le sud, ce qui inquiète les viticulteurs frappés par la sécheresse. Et puis Bordeaux stagne en fin de championnat de Ligue 2. Le club doit aussi faire face aux violences entre ces deux groupes de supporters.
Une attaque de l'Iran contre Israël pourrait être imminente.
Téhéran avait promis de riposter après un raid meurtrier contre un bâtiment diplomatique iranien en Syrie. C'était il y a moins de 15 jours. Le Hezbollah libanais, quant à lui soutenu par l'Iran, a annoncé avoir tiré des dizaines de roquettes sur des positions israéliennes. La menace est donc grande, Johanna Chabas.
C'est en tout cas ce que pense Joe Biden.
C'est pour bientôt.
Hier soir, face aux journalistes, le président américain a confirmé la menace d'une attaque iranienne et a ensuite mis en garde Téhéran.
Don't.
Ne le faites pas. Nous sommes dévoués à la défense d'Israël. Nous soutiendrons Israël. Nous aiderons Israël à se défendre et l'Iran ne réussira pas.
Les responsables américains ne veulent pas en dire plus, mais selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, la menace est réelle. Et après la parole, les actes. Les États-Unis ont déjà renforcé leur présence militaire dans la région. Des porte-avions sont sur place pour tenter de dissuader l'Iran d'attaquer. Le personnel américain qui vit et travaille en Israël a interdiction de quitter les régions de Tel Aviv et Jérusalem. Des consignes qui rappellent celles données par la France. Le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français de s'abstenir de se rendre en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Les familles des diplomates vont-elles être rapatriées de Téhéran ?
Explication de Johanna Chabas pour RMC. L'ambassadeur de France à Moscou, convoqué hier par les autorités russes, elles ont jugé inacceptables les propos du ministre des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné, qui avait affirmé que Paris ne voyait plus l'intérêt de discuter avec Moscou. Mais Ulrich Bounard rassure, cette convocation n'est pas forcément le signe d'une escalade des tensions, selon cet expert en géopolitique.
Convoquer un ambassadeur, en soi, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement fort diplomatiquement. On est plutôt sur la volonté de montrer, d'un point de vue médiatique et officiel, son mécontentement vis-à-vis d'un autre pays. Donc dans ce cadre-là, on n'est pas sur quelque chose de complètement inhabituel. Et donc effectivement, ce que ça dit de relations entre Moscou et Paris, c'est que les relations sont effectivement très mauvaises. Il y a une volonté de montrer finalement aux pays qui se mettent un peu en avant, qui prennent ouvertement la défense de l'Ukraine, comme la France, que finalement la Russie est profondément mécontente de ce genre d'attitude.
Quatre personnes mises en examen et écrouées après la mort de Zakaria, cet adolescent de 15 ans, tué à Romans-sur-Isère cette semaine dans la Drôme. Il s'agit d'un père de 59 ans accusé d'être à l'origine de cette expédition punitive et ses fils de 16 et 26 ans dont l'un a avoué avoir porté le coup de couteau, ainsi que son gendre qui est accusé d'avoir aidé dans la fuite.
RMC 7h33, Marie le disait, il va faire très chaud ce week-end.
On attend 25 degrés à Paris, 28 dans le sud, jusqu'à 29 degrés dans le sud-ouest. Une chaleur exceptionnelle qui inquiète les agriculteurs, notamment les viticulteurs du département de l'Aude, déjà confrontés depuis plusieurs mois à une importante sécheresse, comme Bernard Hernandez, obligé de traiter ses vignes pour éviter certaines maladies.
Comme on a des yo-yo de température qui nous arrivent des fois, mais là c'est exceptionnel, on est obligé de surveiller la végétation et la chaleur de la journée fait pousser énormément les vignes et la nuit avec la baisse des températures, ça favorise le développement d'une maladie qui s'appelle l'oïdium et qui met en péril la récolte future. Hein. On est obligé de préserver le moindre raisin qui sort pour arriver à essayer d'amener la récolte au bout et essayer d'avoir un revenu, ce qui est compliqué depuis quelques années.
Et avec ces chaleurs, vous serez peut-être tenté de vous baigner hein, ce week-end si vous avez la chance d'habiter près de la mer. Attention, les préfectures de Nouvelle-Aquitaine lancent la préfecture de Nouvelle-Aquitaine lance l'alerte maximale baïne et fort courant. L'océan va être particulièrement dangereux, notamment à cause de ces petits bassins de courant marin qui vous emportent vers le large. La baignade hors des zones surveillées sera interdite. À Lacanau, en Gironde, la mer est déjà bien agitée, Pierre Bourgès.
25 degrés à Lacanau, Étienne n'a pas hésité à aller se baigner.
J'ai bien plongé, ça fait du bien, mais il est vraiment trop fort le courant. Parce que déjà quand j'ai levé les pieds, j'ai commencé à reculer au moins 10 mètres plus loin de la berge, donc c'est hyper dangereux là.
Ces courants qui sont en fait des baïnes, il y en a tout le long de la plage à Lacanau et elles sont particulièrement dangereuses selon Hugo, le patron d'une école de surf.
C'est pas des baïnes qu'on a eu tous les ans. Cette année on a des grosses baïnes avec des grands bancs de sable, donc tu vas avoir des gros courants qui vont être assez compliqués du coup.
Mais les touristes ne sont pas toujours sensibilisés à ces dangers.
Les gens, par rapport aux baïnes, souvent, ouais, ils y connaissent rien. Pour eux, c'est une grande piscine avec quelques vagues.
Sauf que c'est l'inverse. Hein. Pour Baptiste, moniteur de surf, c'est même le pire danger de l'océan pour les baigneurs.
Le gros danger de la baïne, et ce qui fait que les gens se noient à plusieurs stades, c'est je vais nager pour rentrer au bord, sauf que le courant est forcément plus fort que notre nage. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment économiser son énergie pour nager sur place. Et le courant, naturellement, va nous ramener vers les vagues. Et du coup, les vagues vont nous ramener vers le bord.
Les professionnels attendent du monde sur la plage ce week-end. La mairie assure rester vigilante compte tenu des conditions de baignade.
La Ligue 1 de foot avec la victoire 2-1 de Metz avant-dernier face à Lens.
Oui, et aujourd'hui Strasbourg qui reçoit Reims à 17h et Toulouse se déplace à Rennes à 21h. En Ligue 2, c'est compliqué pour Bordeaux qui reçoit Bastia à 19h. Les Girondins englués à la 12e place du championnat. En plus du sportif, le club doit faire face aux affrontements désormais réguliers entre deux de leurs groupes de supporters. Les historiques ultramarines face à des membres de la Northgate Bordeaux. Un tout nouveau groupe de supporters, Nicolas Paolorsi.
Oui, des affrontements violents sur le parvis du stade sous le regard médusé des familles souhaitant accéder à l'enceinte. Bilan, 6 blessés légers. Mais depuis 2 mois, les scènes de violence augmentent considérablement entre ces deux groupes. La Northgate Bordeaux est constituée d'anciens membres des Ultramarines en désaccord avec la ligne adoptée par le groupe Ultra qui occupe le virage sud du stade. Contre le Paris FC, il y a 15 jours, le point de non-retour a été atteint avec cette scène de guerre. Un combat opposant 150 supporters avec des tirs de mortier. Le club condamne avec fermeté ces violences et appelle à faire preuve de responsabilité et d'exemplarité. Les deux groupes ont été interdits de déplacement ensemble, mais des mesures rapides vont devoir être prises pour éviter un drame qui semble se rapprocher.
Il y a aussi du rugby au programme aujourd'hui avec les quarts de finale de Champions Cup. Bordeaux-Bègles contre Harlequins à 16h et le Leinster contre La Rochelle à 18h30. Ce sera à vivre évidemment sur RMC. On vous rappelle aussi ce rendez-vous. Emmanuel Macron, invité exceptionnel de RMC et BFM TV lundi de 8h20 à 9h. À 100 jours du début des Jeux Olympiques, le président répondra en direct aux questions d'Apolline de Malherbe, des auditeurs de RMC et de nos consultants JO, David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet. Et puis si vous pouvez vous voulez poser vos questions au président sur la sécurité des Jeux, la cérémonie d'ouverture, les transports ou ses ambitions pour nos athlètes, vous avez cette adresse vosquestions@rmc.fr et bien sûr le 3216. Et puis, avis aux amateurs de jeux de société, c'est la journée mondiale du Scrabble.
Vous avez oublié quelque chose ?
Merci beaucoup.
Vous aurez reconnu sans doute les bronzés. Cet extrait des bronzés font du ski. 76 ans après sa création, une nouvelle version du jeu va sortir, une version plus coopérative où on pourra jouer par équipe, plus accessible. Le but, ce sera d'accomplir 20 défis. On pioche par exemple une carte qui nous demande de placer un mot de 5 lettres ou de placer un mot sans telle ou telle lettre. Et puis si on a du mal, il y a même des cartes aide pour échanger des lettres par exemple. Pour se faire aider, finalement.
Bah, pas, ça
pas, mal, pas mal, oui. Bah, pourquoi pas. En
ça
tout cas,
attirer de nouveaux joueurs.
Mais j'imagine que ça intéresse en tout cas grandement Audrey qui nous écrit sur l'appli RMC. J'organise des soirées Scrabble avec les copains et on passe de bons moments. On rigole bien, mais attention, on compte les points.
Bah, oui, ah, bah, oui.
C'est le principe.
Faut bien les noter. Hein.
Ouais. On rigole pas.
Vous jouez au Scrabble, Clara ?
Moi, je joue, ouais. Ça fait un petit moment, mais pas tellement.
Ah, pas toujours très inspiré.
Battu par papy, mamie, voilà. Vous me disiez tout à l'heure.
C'est dur.
Merci beaucoup, Clara. On vous retrouve tout à l'heure. Il est 7h38.
À suivre dans la matinale week-end.
Vous restez avec nous à 8h10, on va parler des deux roues motorisées soumises au contrôle technique à partir de lundi, normal ou pas. C'est à vous de nous dire au 32-16.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec Nicolas Poincaré. On parle de quoi ce matin ?
D'un couple complotiste qui dit ne pas vouloir contracter avec l'État.
Et dans 2 minutes, les tickets resto que les Français utilisent pour faire leurs courses au supermarché. Olivia Grégoire voudrait pérenniser le système, sauf que ça ne plaît pas du tout aux restaurateurs qui parlent de manque à gagner. On est avec Romain Vidal, représentant du groupement des hôtelleries et restaurations de France, pour en parler. A tout de suite sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end sur RMC, il est 7h42.
RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Romain Vidal, représentant du groupement des hôtelleries et des restaurations de France. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Bonjour. Pour parler donc des tickets resto, parce qu'hier, Olivier Grégoire s'est dit favorable à la pérennisation de leur utilisation en supermarché. Romain Vidal, avant d'avoir votre réaction, je voudrais qu'on réécoute la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Écoutez, c'était hier au micro d'Apolline sur RMC et BFM TV.
C'est très difficile de dire à plus de 96% des Français qui appellent de leur vœu qu'on continue à les utiliser, de dire non, vous êtes gentil, vous payez la moitié, mais en termes d'usage, on s'en occupe et vous n'aurez plus le droit de l'utiliser. Donc 6 Français sur 10 aujourd'hui font leurs courses avec les tickets, enfin, des tickets restaurants ou pas, et préparent leur Tupperware, leur gamelle pour déjeuner le midi. C'est pas anodin, c'est plus d'une majorité, c'est 60% des salariés. On a 5 millions de salariés qui utilisent les tickets restaurants. 96% d'entre eux appellent à continuer l'utilisation.
Bien entendu, Olivier Grégoire.
On prend plutôt ce chemin.
Olivier Grégoire qui se dit donc pour pérenniser l'utilisation des tickets resto en supermarché, car quasiment tous les Français y sont favorables. C'est pas vraiment une surprise, non, Romain Vidal ?
Alors déjà, c'est pas une surprise, mais une petite rectification. On pouvait déjà utiliser avant en supermarché le titre restaurant.
Oui, là, en grande surface.
C'est juste l'ouverture à certains articles supplémentaires qui est question de pérenniser ou pas, c'est-à-dire les produits non consommables immédiatement, comme les pâtes et le riz. Mais sinon, tous les autres articles étaient bien sûr déjà consommables et achetables en magasin.
Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez la ministre tenir ce genre de propos ? Vous comprenez et qu'elle pense d'abord aux Français qui souffrent de l'inflation ?
Alors, tous les Français souffrent de l'inflation, comme les commerçants.
Et qui utilisent leur ticket resto,
bien évidemment.
En grande surface.
On le sait, on l'avait notifié quand la loi était passée en 2022, en disant déjà une loi dérogative de 1 an et demi, c'est déjà énorme. Les lois pour le Covid, c'était que 3 mois renouvelables, voire 6 mois maximum. Mm-hmm. Là, on était sur une mesure d'inflation qui était 1 an et demi recondable, encore 1 an, donc 2 ans et demi dérogatoire. Donc, on sentait bien que ça allait rester dans les mœurs des consommations des Français. Mm. En soi, on peut l'entendre et on le comprend largement qu'on veut acheter ce qu'on veut pour faire son repas, je précise bien son repas, dans les supermarchés. Le seul problème, c'est que c'était joint à une double action, c'était l'ouverture au tout alimentaire et avec un déplafonnement de 19 à 25 euros. Donc on transforme le titre restaurant en titre ce qu'on peut appeler caddie. Et donc là, ça devient dangereux puisqu'on perd l'objet social du titre restaurant. Le but n'est pas de faire les courses pour la famille à la maison, le but est de nourrir le salarié pendant sa pause déjeuner. Or, le repas dans une supermarché...
Oui, mais le salarié fait les courses pour ensuite faire à manger à la maison bien et sûr. Faire sa gamelle qui ramène et au boulot.
C'est pour ça que l'une des solutions qui est proposée, qui est sur la table et sur laquelle on travaille avec Olivier Grégoire et son cabinet, c'est le double plafond. Parce qu'aujourd'hui, en supermarché, le repas d'un salarié, d'après les statistiques, c'est entre 3 et 5 euros. Mmh. On est sur des plafonds autour des 15 euros pour un boulanger et 20 euros pour la restauration. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes plafonds. Donc pourquoi, si on veut préserver l'objet social, et qui dit préserver l'objet social, c'est préserver l'objet de défiscalisation et donc tout l'intérêt du titre restaurant, pourquoi il faudrait instaurer le même plafond pour la GMS alors qu'on est sur des taux quasiment 4 fois, 5 fois inférieurs?
Alors un double plafonnement, donc ça veut dire 25 euros utilisables dans les restaurants et ce serait combien par exemple
dans les commerçants? Quand on parle de titres restaurants, dans les commerçants, on représente 40%. Après on a tout ce qui est assimilé, on a les boulangers, on a les charcutiers traiteurs, c'est tous les commerçants de proximité.
Oui, là ça serait 25 euros, 25 aussi?
Tout est sur la table, pour l'instant on n'a pas encore parlé de chiffres, on n'a pas encore...
Mais vous, ce que vous voudriez l'idéal, ce serait quoi, selon vous ?
Statistiquement, on s'aperçoit que le coût d'un repas dans tous ces commerces de proximité est autour des 20 euros.
Ouais.
Donc il faudrait qu'on soit au même plafond tous également, s'il faut 20 euros, 25 euros, et après baisser celui sur la consommation qui est inférieure, parce que si on doit consommer pour 3 euros, 5 euros, on n'a pas besoin de 25 euros pour faire son
donc
panier.
Donc ça serait moins de 10 euros dans les supermarchés?
Ça peut être un peu plus, il n'y a pas de souci, il faut créer une différence, parce que juste un chiffre, pourquoi vous entendez souvent les restaurateurs qui râlent, ou les boulangers, comme c'était à la radio ce matin, sur le titre, c'est 1,5 milliard d'euros qui ont été fléchés en un an en direction d'un supermarché par rapport aux commerçants de proximité. Vous disiez que les Français souffraient d'inflation. Le boulanger souffre d'inflation avec la crise énergétique, la crise des matières premières, tout comme un restaurant. Ils perdent 1,5 milliard de chiffre d'affaires au profit des supermarchés. Donc c'est quand même difficile de vivre avec ça. Et ça peut s'entendre que c'est pas qu'il faut essayer de trouver une solution pour essayer de garder une économie sur le titre restaurant.
Alors attendez, parce que la ministre dit entendre les inquiétudes des restaurateurs, des professionnels de la restauration, mais ce sont des gens audacieux, inventifs. On peut très bien imaginer des solutions où le consommateur aurait accès à des promotions ou à un dessert s'il utilise le ticket restaurant. C'est possible ça ?
Alors déjà oui, les restaurateurs, je valide ce que dit la ministre, bien évidemment, puisque on est à l'origine du titre restaurant, c'est nous qui l'avons créé, donc on a quand même eu des bonnes idées. Ensuite,
Pour l'encourager à utiliser le titre restaurant chez vous et pas au supermarché, c'est ça le but.
Alors le problème, c'est que encore une fois, on n'a pas les mêmes types de paniers et le même type de au moment où si vous devez aller manger chez vous. Ou manger en supermarché, c'est vous irez pas au restaurant parce que c'est soit parce que vous avez pas l'argent, pas le temps ou pas l'envie. Ça arrive aussi. En restauration, on a des coûts, tout comme en boulangerie, on peut pas vendre à perte. L'inflation, le coût de l'énergie, ça a été 300 à 500% d'augmentation pour nous. Je rappelle quand même qu'on est en pleine crise d'inflation. L'augmentation des matières premières, c'était 17%. On ne peut pas vendre à perte. Et dernièrement, on peut voir d'ailleurs beaucoup d'articles dans les journaux. Pourquoi le midi, le menu est moins cher dans les restaurants que le soir? Pourquoi? Parce qu'on correspond justement au secteur du marché où le midi, c'est un repas pour se sustenter pour le déjeuner du salarié. Et donc, vous avez des formules qui sont entre 15 et 17 euros. Alors que normalement, vous mangez pour 30 euros. On fait déjà tout cela, donc cela existe. Par contre, je renvoie la balle à la ministre.
Vous ne pouvez pas aller plus loin?
On a quand même besoin de payer nos salariés. On est quand même l'une des activités qui emploie le plus de Français. On est quand même porteur du PIB sur le tourisme. On ne peut pas vendre à perte. On sait ce que c'est que vendre à perte. Ça a été l'année du Covid. On a eu beaucoup de mal à revivre. Heureusement, on a été épaulé par le cabinet et par le gouvernement. Mais je renvoie la balle. Ceux qui ont besoin de se réinventer, ça serait les émetteurs. Parce qu'aujourd'hui, le seul dispositif de paiement qui n'arrête pas d'augmenter en son coût, c'est le titre restaurant. Aujourd'hui, vous avez les virements instantanés qui deviennent gratuits. Vous avez la carte bleue qui a été divisée par 5. Le titre restaurant a été multiplié par 5 quasiment. Donc le problème, c'est que si on veut garder une égalité dans les commerces, c'est aussi l'objet de la loi, parce que qui dit loi titre restaurant, ce qui a été validé par l'autorité de la concurrence dans son rapport en 2023, c'est qu'il y a un problème de régulation aussi sur les commissions et de rapport sur les commissions. Donc il faut penser aux commerces qui ont besoin de vivre et d'avoir des commissions qui soient équitables entre les commerçants de France. On ne peut pas flécher vers les supermarchés et leur donner des taux de commission très basses par rapport à un commerçant qui a du mal à survivre et lui donner des taux de commission très fortes. Mmh. Donc la ministre le sait, puisqu'il y a des rapports de l'autorité de la concurrence comme quoi c'est un marché déséquilibré. Et la loi du titre restaurant devra porter également sur cela, sinon il n'y a pas d'intérêt.
Et c'est ce que vous allez dire à la ministre la semaine prochaine. Une réunion aura lieu le 18 avril pour parler de ça, justement, pour voir si un double plafonnement est possible. Visiblement, la ministre n'est pas vraiment favorable sur le principe.
Alors oui, elle a parlé de ça, d'usine à gaz. Alors ouais. Les Français l'ont utilisé pendant le temps du Covid.
Ça, c'est tout ce qui relève de l'usine à gaz en matière de pouvoir d'achat des Français est une hérésie, dit-elle.
Écoutez, ça s'est passé pendant le temps du Covid, ça s'est très bien passé. Il y a eu le double objectif déjà de faire dépenser l'argent du titre restaurant qui était surstocké sur les cartes. Ça a fonctionné. Les Français se sont fait plaisir et ça a permis de relancer les restaurants. Donc ça a très bien marché. Et les Français et les émetteurs ont réussi à le faire comme les commerçants. Donc c'est pas très compliqué. Et puis encore une fois, c'est pas compliqué, c'est pas des usines à gaz. Aujourd'hui, vous roulez à 50 km/h, à 90 et à 130. Il y a bien des variations, vous arrivez à le faire, je pense, comme tout le monde. Ce n'est pas très compliqué non plus, mais pourtant, c'est des flux qui sont différents. Donc, ce n'est pas des usines à gaz, c'est pour préserver l'objet social et préserver le titre. Sinon, demain, c'est une niche fiscale. Et je pense que l'État a besoin d'argent et ça serait quand même dommage qu'il supprime le titre restaurant.
Merci, Romain Vidal, représentant du groupement des hôtelleries et des restaurations de France, d'être intervenu ce matin sur RMC. On suivra évidemment le dossier. Il est 7h50, vous restez sur RMC. Dans un instant, on va retrouver Nicolas Poincaré.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez bienvenue sur RMC. Il est 7h52 dans le bonus RMC. Dans quelques minutes, Marie va nous parler du film Scary Movie parce qu'un sixième volet est en préparation. Mais d'abord,
racontez-nous.
C'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Anaïs, bonjour Marie.
Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, l'histoire de ce couple qui a refusé de coopérer lors d'un contrôle de police en disant ça.
On ne contracte pas.
On ne contracte pas.
On ne contracte pas.
On ne contracte pas.
Oui, c'est un curieux refus d'obtempérer. C'est devenu une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui vient d'atteindre 1 million de vues puisque le couple a filmé toute la scène. On voit donc monsieur au volant et madame à ses côtés qui répète constamment aux gendarmes « On ne contracte pas ». Montrez-nous vos papiers. Non, on ne contracte pas. Veuillez souffler dans l'alcotest. Non, on ne contracte pas. Et au bout de 9 minutes, les gendarmes excédés finissent par briser la vitre de la voiture et par extraire le couple manu militari.
Mais alors que signifie cette phrase « on ne contracte pas » ?
Cela signifie que ce couple appartient au mouvement des citoyens souverains. Ils prétendent que l'État français n'existe pas, qu'il n'est qu'une entreprise privée créée en 1947, sous-entendu une entreprise fondée au lendemain de la guerre par les Américains et par les Juifs. Les citoyens souverains n'ayant pas signé de contrat avec cette entreprise qu'ils appellent République française présidente, eh bien, ils ne se sentent concernés par aucune loi. Ils peuvent brûler leur passeport ou leur permis de conduire. Ils ne payent pas d'impôts, on l'a vu dans la vidéo. Ils refusent aussi de souffler dans le ballon. Ils considèrent que la Constitution est caduque depuis 2016, ce qui invalide l'élection d'Emmanuel Macron. Les plus convaincus retirent même généralement leurs enfants de l'école. On ne sait pas combien de Français adhèrent à ces théories complotistes, mais des groupes Facebook rassemblent jusqu'à 10 000 personnes et aux États-Unis, ils sont environ 300 000, considérés là-bas comme un groupe terroriste. Il y a une quinzaine d'années, des adeptes de ce mouvement avaient abattu 2 policiers lors d'un contrôle routier dans l'Arkansas. Le mouvement a pris de l'ampleur aux États-Unis comme en France au moment du Covid et de la création du pass sanitaire. Le couple français qui a filmé son acte de résistance dans le Nord sera jugé en octobre prochain. Il risque une très grosse amende que, bien sûr, ils refuseront de payer.
Merci Nicolas. Racontez-nous à retrouver un podcast sur l'appli RMC.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous, Marie Lafolas. Scary Movie 6, c'est pour bientôt ?
Oui, c'est officiel, ça y est, c'est dans les tuyaux, plus de 20 ans après la sortie du premier volet. Ça a été annoncé par Paramount à la CinemaCon. Vous savez, c'est cette convention qui a lieu à Las Vegas et pendant laquelle les gros studios dévoilent les nouveaux projets et les premières images de ceux déjà annoncés. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore grand-chose dessus, mais c'est vrai que deux décennies plus tard, on se demande évidemment si les deux actrices principales, donc Anna Faris qui jouait Cindy et Regina Hall qui jouait Brenda, seront de retour. On espère les voir quand même. On se demande aussi quel film sera parodié, parce que les premiers volets reprenaient Scream avec le masque culte du film L'Exorciste, avec cette petite musique bien entraînante. Mais aussi Sixième Sens, Chucky ou encore American Pie. C'est grâce à toutes ces références que la franchise avait très très bien marché. Elle avait quand même rapporté près de 900 millions de dollars au box-office mondial. Même si les deux derniers volets n'étaient pas vraiment un franc succès, c'est vrai, il faut se le dire. Mais on espère évidemment que celui-ci plaira aux fans. Le tournage débutera à l'automne. Il devrait sortir courant 2025. Et parmi les autres annonces de la CinemaCon, beaucoup de suites. Disney a fait la promotion de Vaiana 2 et de Vice Versa 2, et Ridley Scott a montré des images de son prochain film Gladiator 2, plus de 20 ans après la sortie du premier. On y voit Paul Mescal, la vedette de cet opus, se battant contre des rhinocéros et des babouins assoiffés de sang devant Denzel Washington qui semble vouloir lancer une révolution. Et selon le réalisateur, ce film serait encore plus extraordinaire que le premier. Ça sortira le 22 novembre prochain.
Merci Marie. Il est 7h56, vous écoutez RMC, on se retrouve dans un instant pour la météo, suivi du journal de Victor Pourchet.
RMC, la matinale week-end.